À la revue de presse internationale de ce 19 janvier, c'est avec Véronique Rigolet. Bonjour Véronique.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, la course contre la montre pour aider les victimes des îles Tonga. Véronique, 4 jours après l'éruption du volcan Unga Tonga, l'archipel est toujours coupé du monde.
Oui, l'inquiétude s'affiche en une de nombreux quotidiens, du Wall Street Journal à La Repubblica, qui publie de nouvelles images satellites montrant, je cite, « toute l'étendue dévastatrice de l'éruption volcanique et du tsunami qui ont secoué l'archipel des Tonga le week-end dernier ». The Australian, de son côté, décrit des îles d'ordinaire verdoyantes, désormais transformées en terrains vagues recouverts de cendres, avec des centaines de bâtiments emportés et des cours d'eau contaminés. Et plus aucun moyen de communication. Le câble sous-marin qui relie les îles au monde mettra des semaines avant d'être réparé, souligne encore le quotidien australien. La course contre la montre est engagée pour dégager les cendres qui empêchent tout avion d'atterrir. Rapporte de son côté The Age, le quotidien de Melbourne, qui souligne d'ailleurs les efforts, dit-il, désespérés des Australiens et des Néo-Zélandais pour tenter de rejoindre les îles Tonga et d'y apporter de l'eau potable, de la nourriture et des générateurs. 2 navires néo-zélandais chargés d'aide font route vers les îles, mais ils mettront encore 3 jours pour arriver à destination, note encore The Age, qui met en avant également une autre difficulté dans ces opérations de secours, le danger d'apporter le Covid dans un archipel qui a su s'en préserver. Lorsque les équipes internationales de secours arriveront, la priorité sera d'éviter à tout prix toute forme de contagion, explique encore le New York Times.
À lire également dans la presse aujourd'hui, Véronique, cette nouvelle chance donnée à la diplomatie dans la crise ukrainienne. Le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères ont rendez-vous vendredi à Genève.
Et c'est peut-être le sommet de la dernière chance, analyse le temps, alors que la Maison-Blanche prévient que Moscou pourrait attaquer l'Ukraine à tout moment. Tout n'est donc pas sans espoir, même si les discussions demeurent compliquées, souligne encore le quotidien suisse. Au moins, Anthony Blinken et Sergueï Lavrov négocient désormais en tête à tête, se réjouit également le Süddeutsche Zeitung, à l'instar du Guardian, pour qui, eh bien, ces pourparlers pourraient être une ultime tentative de montrer à Vladimir Poutine que le dialogue lui permettra d'obtenir des progrès substantiels en matière de contrôle des armements, alors qu'à l'inverse, nous dit le Guardian, une intervention militaire représenterait un risque incalculable pour lui. En attendant, les États-Unis continuent de faire monter la pression contre Moscou, note de son côté le Wall Street Journal, qui révèle qu'à Kiev, où il se trouve aujourd'hui, Anthony Blinken pourrait annoncer des sanctions financières contre des agents pro-russes en Ukraine.
En Colombie, Véronique, l'ex-otage des FARC, Ingrid Betancourt, se lance dans la course à la présidentielle.
Oui, 20 ans après son enlèvement par la guérilla et 6 ans de captivité, Ingrid Betancourt est de nouveau candidate à la présidence de Colombie, rapporte la correspondante du New York Times, qui explique que cette candidature arrive à un moment critique, alors que les Colombiens, dit-elle, en ont assez d'une élite politique qu'ils jugent corrompue, et alors également que l'accord de paix est en danger. Des dizaines de groupes armés ont en effet comblé le vide laissé par la démilitarisation des FARC en 2016, nous dit encore le quotidien, qui décrit une guerre alimentée par la pauvreté et les inégalités. Ingrid Betancourt pourrait être la candidate de la réconciliation du pays, fait valoir un analyste de Bogota, même si sa victoire en mai prochain est loin d'être assurée, explique de son côté le Washington Post, qui souligne qu'elle devra déjà remporter les primaires de mars prochain et dans lesquelles elle sera en compétition avec d'autres candidats centristes. Pour l'heure, c'est en tout cas le populiste de gauche, Gustavo Petro, qui est le favori des sondages, nous dit encore le quotidien américain. Face au président sortant, le très droitier et très impopulaire Iván Duque.
Pour terminer, Véronique, les députés indonésiens ont, eux, approuvé la construction d'une nouvelle capitale qui s'appellera Nusantara.
Nusantara, ce qui signifie archipel en indonésien, rapporte le South China Morning Post, qui explique que ce changement de capitale permettra en tout cas de soulager Jakarta, actuelle capitale très encombrée, polluée et qui s'enfonce sous l'eau à un rythme de 25 cm par an. Coût du transfert, 33 milliards de dollars. dollars, note de son côté The Australian, qui précise eh bien, que la nouvelle capitale indonésienne se situera sur l'île de Bornéo, à 2000 km de Jakarta, qui restera, elle, le centre économique du pays. Nusantara deviendra pleinement opérationnel à l'horizon 2024, quand le déménagement administratif sera achevé, nous dit le Guardian.
C'était la revue de presse de Véronique Rigollet. Merci Véronique, à demain.
À demain.